Cinquième partie. Parmi les astéroïdes. Chapitre 37. Star. Univers se déplaçait maintenant à une telle vitesse que son orbite ne ressemblait plus du tout, même de loin, à celle d'un objet naturel du système solaire. Mercure, la plus proche du Soleil, ne dépasse guère les 50 km/s au périhélie. Univers avait atteint le double de cette vitesse dès le premier jour, et la moitié seulement de l'accélération à laquelle il parviendrait quand il serait allégé de plusieurs tonnes d'eau. Pendant quelques heures, alors qu'il passait à l'intérieur de son orbite, Vénus devint le plus éblouissant de tous les corps célestes, après le Soleil et Lucifer. Son minuscule disque était tout juste visible à l'œil nu, mais même les télescopes les plus puissants du bord ne fournissaient pas le moindre repère. Vénus gardait ses secrets aussi jalousement qu'Europe. En se rapprochant encore du Soleil, bien à l'intérieur de l'orbite de Mercure, Univers n'empruntait pas seulement un raccourci, mais bénéficiait d'une poussée supplémentaire sous l'effet du champ solaire. Comme la nature équilibre toujours ses comptes, le Soleil perdait un peu de vélocité dans la transaction, mais l'effet ne serait pas mesurable avant quelques millénaires. Le capitaine Smith profita du passage périhélique du vaisseau pour restaurer un peu du prestige que ses réticences lui avaient fait perdre. « Vous savez maintenant, dit-il, pourquoi j'ai fait passer le vaisseau au travers d'Old Faithful. Si nous n'avions pas lavé la coque de toute cette saleté, nous subirions aujourd'hui une grave surchauffe. Je doute même que les systèmes de régulation auraient pu supporter une telle charge thermique, presque 10 fois supérieure à celle rencontrée au niveau de la Terre. » En regardant, à travers des filtres presque noirs, le soleil hideusement grossi, ses passagers le croyaient sans peine. Ils furent tous plus qu'heureux quand il reprit sa taille normale et continua de rapetisser sur l'arrière d'Univers alors que le vaisseau coupait l'orbite de Mars pour entamer la dernière phase de son parcours. Les 5 VIP s'étaient tous adaptés, chacun à sa façon, aux changements inattendus de leur vie. Mihailovitch composait avec fureur et se montrait rarement, sauf au repas où il racontait des histoires invraisemblables et taquinait toutes les victimes à sa portée, en particulier Willis. Greenberg s'était nommé, sans que personne protestât, membre honoraire de l'équipage et passait une grande partie de son temps sur la passerelle. Maggie M. considérait la situation avec un amusement ironique. « Les écrivains, » observa-t-elle, « ont coutume de se plaindre constamment de ne pouvoir travailler parce qu'on les interrompt constamment. Ils rêvent d'un endroit où rien ne les dérangerait, aucune obligation, les phares et les prisons étant leurs exemples favoris. Alors je n'ai rien à dire, à ceci près que mes demandes de matériel de recherche sont sans cesse retardées par des messages prioritaires. » Victor Willis tenait à peu près le même raisonnement. Lui aussi s'était vaillamment attelé à divers projets à long terme. Et il avait une raison supplémentaire de rester enfermé dans sa cabine. Sa barbe renaissante lui donnait l'air d'être mal rasé. Il faudrait plusieurs semaines avant qu'il ne soit présentable. Eva Merlin passait chaque jour des heures dans la salle de projection pour revoir, expliquait-elle, ses classiques. Heureusement, la cinémathèque d'Univers avait pu être installée à temps pour le voyage. Si la collection était encore relativement réduite, elle était bien suffisante pour occuper plusieurs vies entières. Toutes les œuvres célèbres de l'art visuel y figuraient, depuis l'aube clignotante du cinématographe. Eva connaissait la plupart des films et ne demandait qu'à faire partager sa science. Floyd adorait l'écouter parce que, alors, elle devenait vivante, humaine et perdait sa rigidité d'icône. Il trouvait en même temps triste et curieux qu'elle ne pût établir un contact avec le monde réel que par l'intermédiaire de l'univers artificiel des images. Un des moments les plus singuliers de la vie, pourtant fertile en événements, de Heywood Floyd, fut celui où il se trouva assis dans la pénombre, juste derrière Eva, quelque part dans les environs de Mars, regardant avec elle la première version d'Autant en emporte le vent. Par moments, les profils des deux célèbres Scarlett se superposaient presque et il pouvait les comparer, bien qu'il fût impossible de dire laquelle était la meilleure actrice. Chacune avait son propre talent. Quand la salle se ralluma, il fut stupéfait de voir qu'Eva pleurait. Il lui prit la main et lui dit tendrement « Moi aussi j'ai pleuré quand Bonnie est morte. Iva sourit faiblement.
Je pleurais en réalité pour Vivienne. Quand nous tournions le remake, j'ai lu beaucoup d'ouvrages sur elle. Elle a eu une existence si tragique. Et ici, entre les planètes, je pensais à une chose que Larry a dite quand il l'a ramenée de Ceylan après sa dépression nerveuse. Il a déclaré à ses amis « J'ai épousé une femme du cosmos ».
Elle s'interrompit et une nouvelle larme coula, assez théâtralement, ne put s'empêcher de penser Floyd, le long de sa joue.
Et tenez, une coïncidence encore plus étrange. Elle a tourné son dernier film il y a exactement 100 ans. Et savez-vous ce que c'était?
Dites-le-moi. Étonnez-moi encore.
J'imagine que cela surprendra Maggie si elle écrit réellement le livre dont elle nous menace tous. Le tout dernier film de Vivienne était La Nef des Fous.